L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Au début, on n'a pas beaucoup de techniques, on ne sait même pas pourquoi il faudrait à tout prix être virtuose. Mais puisque c'est le début, il est trop tôt pour en faire un drame. En plus, il ne sera jamais trop tard pour en faire une opportunité et imaginer quelle musique originale peut ressortir des premiers pas en musique. Une fois entendu que les premiers cours de piano peuvent être le lieu d'une écriture musicale toute spéciale, les rapprochements entre la pédagogie et la création peuvent permettre de retourner les perspectives de part et d'autre et offrir la possibilité de réapprendre ce que c'est que le piano et ce que peut bien être de faire de la musique. Ce métaclassique sera un diptyque au cours du lequel nous allons suivre un cours dispensé par la pianiste, compositrice et pédagogue Martine Jost à d'autres profs de piano pour leur montrer comment aborder l'instrument dans son entier, quitte à commencer par le faire sonner par toutes ses composantes, à ne pas trop commencer par le clavier. Mais avant, pour la première partie de l'émission, nous nous rendons chez le compositeur Gérard Pesson pour feuilleter les premières pages de ses Musica Ficta, des pièces contemporaines pour piano qu'il compose, commande et édite aux éditions Le Moine pour les apprentis pianistes. Eh bien, on pourrait commencer par parler des avantages à avoir des pianistes qui n'ont pas encore une virtuosité très affirmée.
Disons que pour le compositeur, c'est déjà quelque chose souvent qui est vécu comme intimidant, puisque dans Musica Ficta, j'ai écrit la plupart des pièces, mais seulement 75%, hein, les 25% autres, même un peu plus. J'ai demandé à des collègues, amis, de le faire, et j'ai vu combien ça les intimidait. Moi, un peu moins, parce que je me suis fait à cette idée depuis très longtemps. Mais ça pose la question de savoir comment est notre musique, est-ce que c'est toujours notre musique, quand on enlève énormément de possibilités, de virtuosité, d'harmonie complexe ou de rythme complexe. C'est-à-dire, en enlevant des moyens, en étant très économique, qu'est-ce qui est encore à nous ?
Et ça veut dire de se dépouiller aussi de soi-même ?
Enfin... Non, pas forcément, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est quand on écrit un grand nombre de pièces Musica Ficta, avec les deux volumes qui vont paraître encore, mais qui sont beaucoup plus difficiles, j'en réécris une centaine de pièces. Et dans ces pièces, évidemment, certaines sont des hommages à d'autres, un peu comme faisait Courtag, d'autres sont des sortes de masques, enfin, ou de paraphrases. C'est-à-dire, c'est difficile, dans des pièces assez simples, d'être toujours uniquement soi-même, sans foi, puisque quelque part, c'est quelque chose qui tient au jeu, à la variation, à une chose un peu changeante ou un peu inattendu, y compris pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on doit se surprendre nous-mêmes, se prendre à revers. Dans la question de ces pièces, qu'on appelle pédagogiques, je ne sais pas si le mot est exact, la question est de les séduire, de les intéresser, mais aussi et peut-être surtout leurs professeurs, parce que c'est souvent eux qui font le lien.
Ah oui, donc il y a une double adresse en quelque sorte.
Oui, c'est-à-dire que si la chose se présente de manière peut-être un petit peu trop, avec une notation un peu compliquée, ça peut effrayer plus le professeur que l'élève, qui lui n'a pas de préjugés par rapport à ça.
Vous êtes connu pour avoir l'allusion facile et la citation courante. Quand vous vous adressez à des pianistes qui n'ont pas une culture musicale encore très avancée, forcément, ça vous prive d'une force de clin d'œil un peu, non ?
Oui, mais c'est aussi un moyen de faire découvrir éventuellement l'œuvre source. Vous voyez, par exemple, il y a une toute petite pièce qui finit le volume 1 et qui s'appelle Adieu, et qui est une sorte de petit condensé de l'Abschied du Chant de la Terre, l'Adieu, la dernière pièce du Chant de la Terre de Mahler, donc qui est une pièce de 30 minutes que je condense là en une minute. Et parfois, c'est quand les enfants ont joué cette pièce qu'après, ils vont entendre la pièce source, un petit peu comme l'origami Chopin, qui combine deux préludes de Chopin. Et parfois, ils ne connaissent pas ces pièces-là, mais après, ils auront joué ma pièce avant et ils joueront Chopin après, ce qui est un comble. Mais ça peut marcher comme ça.
Ce que vous perdez de technicité par rapport à un pianiste plus confirmé, vous le gagnez aussi en liberté, au sens où, par exemple, condenser Chopin à ce point, peut-être vous ne vous sentiriez pas autorisé à le faire en des terrains plus avancés.
Oui, sans doute, il y a un espace de fantaisie, enfin bon, encore que j'essaie de me le garder dans toutes les circonstances, je dois dire. Mais cette sorte de liberté, de possibilité de dialoguer et avec des jeunes artistes qui ont moins de préjugés que d'autres. Effectivement, comme vous disiez, on perd sur un plan, mais on gagne beaucoup sur d'autres. Et puis, c'est toujours bouleversant d'entendre des enfants, parce que certains sont vraiment des enfants, avoir un son de piano. Si vous fermez les yeux, vous pensez que c'est un son de piano d'adulte. C'est dur à faire un son de piano quand même. On dit bêtement que le son de piano est déjà fait. C'est tout à fait faux. Enfin, Il y a vraiment un jeu, enfin, dans le sens, dans les deux sens, vous voyez.
Eh bien, rentrons un petit peu peut-être dedans. On commence par le 1, alors.
On va commencer par le 1, pour pas brûler les étapes. Alors, la première pièce, je l'aime beaucoup. C'est pas noté d'ailleurs, parce que je note pas toujours mes sources, mais si je me souviens bien, ça vient d'un poème de Jean d'Ève. C'est un bout de poème,
ouais.
Comme ça. C'est pas un titre, hein, mais voilà, une pensée pour la mer Égée. Donc trois mains comme ça, et j'aime bien cette pièce qui me semble vraiment tout à fait ma musique, et qu'a joué d'ailleurs Caroline Crène.
Accord à côté sur.
Et les professeurs n'arrêtaient pas de me dire, parce que j'avais des professeurs qui relisaient, qui me donnaient des conseils, et dont Martine Joss d'ailleurs, Annelise Gastaldi bien sûr, qui était très proche de ce projet, et qui me donnait des conseils, toujours bienveillants et toujours positifs.
Et de quel ordre
Et justement, elle me disait, oui, tu fais beaucoup de... Il y a une certaine mélancolie, de beaucoup de pages très lentes. Et alors qu'en fait, les enfants aiment bien que ça avance, que ça soit assez rythmé, oui. Que ça soit même un peu vif, un peu rapide. Ils ont d'ailleurs tendance à jouer souvent plus vite qu'écrit. Donc, je m'en suis souvenu. Alors là, on voit des pages commandées à des amis. Mathieu Bonilla, qui est un ancien élève. Alexandre Tarot, le pianiste qu'on ne présente plus.
Et qui est venu dans le numéro Miret de Métaclassique.
Ah, très bien, très bien. Sans vent. Alors, c'est marrant parce qu'en tournant ces pages, évidemment, ça me... Comme j'ai eu des expériences comme ça répétées, je vois des pièces qui ont été choisies et d'autres pas. des pièces qui ont marché, entre guillemets, et d'autres pas. Sans vent, je crois que je ne l'ai pratiquement jamais entendu.
Alors là, on a une indication intéressante, comme un nouveau début. Ça met effectivement l'indication à un autre endroit qu'une indication technique.
Oui, bon là c'est simplement parce que c'est une sorte de renversement du c'est comme une réexposition si on
ouais.
veut, c'est comme le début, simplement à l'envers et une octave au-dessous, donc c'est une petite indication formelle si on peut dire. Et ces pièces s'étalent en fait sur des décennies, hein. Certaines ont été écrites tout début de ce siècle-là. Alors voilà, il y a une petite citation de Carmen de Claire-Mélanie Zinhubert, « Prends garde, l'amour est un oiseau rebelle », donc elle aussi a fait coucou. Là, par exemple, les Vivian Girls, Henry Darger, c'est, qu'on assimile à l'art brut, était un étrange...
Donc là, vous répondez à l'injonction de Martin Just, hein. C'est assez rapide quand même.
Oui,
tout à fait. Décroche à 90,
oui,
100.
Absolument. Et j'ai un des pères d'ailleurs qui est venu me voir, qui me dit « Henry Darger quand même, c'est un peu hard et tout ça ». Alors effectivement, c'est peut-être pas un univers pour les enfants, bien que cet homme était hanté d'enfance, c'était un homme pas illettré parce qu'il a laissé des milliers de pages, mais il écrivait des contes fantastiques avec des guerres et des... Mais c'était assez étrange, ces personnages. Les personnages féminins étaient très, très, très mis en avant. C'était des petites filles, mais elles avaient un sexe masculin, curieusement. Donc, dans toutes ces. On voit ça au musée de Lausanne, le musée de l'art brut. Donc, c'est un personnage, moi, qui me fascine beaucoup, mais qui n'est pas à proprement parler un auteur pour les enfants. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut. Ça, c'est une petite pièce qui m'avait été demandée par Annelise Gastaldi.
Ah oui, d'où la référence à Proust.
Proust,
oui.
Voilà.
Échelle et infusoire. Alors, c'est un titre très pessonien quand même. Hein.
Bah, oui, mais en même temps, c'est des mots trouvés dans Proust. Voilà. Donc c'est juste une gamme qui monte puis qui descend. Vous voyez, une chose très simple. Là, un arrangement de...
mais quand vous dites une
basque.
Gamme... enfin, je ne sais pas si vous avez dit une gamme, des notes qui montaient.
Oui.
Alors justement, comment on se détache de la gamme? Parce que... Le plus simple serait effectivement de faire juste do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, quoi. Et quand même, c'est pas tout à fait ça.
C'est un petit peu ça, hein. Do, ré, mi, fa,
sol. Enfin, il y a des doubles notes au passage.
Oui, bien sûr. Non, mais la base, c'est ça.
Oui.
C'est une chose qui monte, qui descend. Puis après, il y a des contretemps. Il y a une voix qui descend, une voix qui monte. C'est une sorte de jeu aussi musical. Parce qu'il faut que les jeunes interprètes ne s'ennuient pas, mais il faut que le compositeur aussi ne s'ennuie pas, se donne des espèces de jeux, même parfois un peu simples et dérisoires.
Mmh.
Sur le dos d'un hiatus, alors là c'est un petit clin d'œil à
Satie.
À Satie, une autre description automatique.
Elle a
été jouée beaucoup.
Jusque dans les indications de jeu, exact et froid, là on
voilà,
sent que
bon,
vous dialoguez
c'est
avec...
Évidemment, un clin d'œil, vous voyez, en penchant la tête, expressif. Certains penchaient la tête en jouant. Je suis désolé, il y a beaucoup de klaxons en ce moment.
Prometteur, ça doit être difficile de jouer Prometteur.
Ben, c'est peut-être moins difficile que jouer Prométhée, je sais pas.
C'est vrai. Expressif mais hypocrite. Ça, c'est facile de faire hypocrite.
Faussement doux.
Faussement doux.
C'est facile, imperturbable. Théorique, c'est plus difficile.
Ouais, théorique, c'est...
Donc, je parle un peu de Satie, si jamais ils n'en ont pas joué. C'est possible qu'ils n'en aient pas joué. Bras dessus, bras dessous, de Ramon Lascano. Donc, il y a trois... Il y a six mains, mais qui s'entrecroisent. Vous voyez, c'est... Roméo est en miettes. Alors ça, c'est une citation de... C'est dans une pièce de théâtre de David Lescaut, le dramaturge et metteur en scène...
Mais là aussi, hein, dans l'indication de jeu, simple mais très intérieur, vous placez quand même l'élève à un endroit de jeu qu'il n'a pas forcément déjà questionné, savoir comment faire un jeu intérieur.
Non, c'est vrai, mais c'est quelque chose avec quoi on peut dialoguer. Enfin, le professeur peut dialoguer, moi je peux dialoguer avec eux. Qu'est-ce qui est intérieur? Ça veut dire que c'est très concentré et c'est un son qu'on fait à partir de soi en... je développe beaucoup dans ces pièces l'idée d'écoute. L'idée d'écoute, c'est-à-dire on écoute ce qu'on fait et on l'écoute avant de le jouer. Et le son est complètement différent, c'est-à-dire ce qu'on va discuter avec ses enfants
C'est une manière d'être au son que même les plus grands virtuoses pensent de la même manière.
C'est ce qui vous relie avec Martin Just, c'est-à-dire que de faire sonner le piano prend presque le pas sur l'enjeu strictement digital de pianoter.
Oui, quoi. Je crois finalement. Oui. Bien, même s'il y a des pièces exigeantes du point de vue digital, mais l'écoute. Alors ça, mon long mois de mai, c'est difficile à dire.
Là, vous avez carrément fait des paroles.
Une chanson très peu polyphonique du début du XXIe siècle. Donc c'est l'idée qu'il parle rythmiquement en jouant. Et ce n'est pas toujours très facile. Là, j'ai vu un duo de petits garçons, justement, au conservatoire Rixati du 7e arrondissement, et où le petit qui jouait la partie du haut ne pouvait pas faire autrement que chanter aussi. Il n'arrivait pas à dire seulement pendant qu'il jouait. Et bon, c'était possible après tout.
Parce qu'il est demandé que ce soit non chanté, que ce soit dit.
Que ce soit dit, mais oui. Mais bon, c'est...
Donc ce qui est dit, c'est « je vois un pont sur ma maison », mais c'est quand même syllabisé.
Oui, en rythme.
Moi, non. En rythme, ouais. Donc c'est un désaccord, en fait. Il y en a un qui voit plein de choses et l'autre, non.
C'est du aperguis pour débutants, si vous voulez. on pourrait dire ça. Il y a des petites choses. Ça, Alors, autre manière de décrire la pluie, c'est une allusion à Eisler.
Ah oui, qui avait fait 40 manières de décrire la pluie.
Exactement.
C'était pour les enfants, Eisler?
Non, pas du tout. Alors, il y a des petites références archéologiques aussi, à l'univers arabe, qui m'intéresse aussi beaucoup, aux citernes d'Ain Mizeb, qui sont en Tunisie.
Et là, vous demandez à l'interprète de jouer erratique, serein, comme un récit.
Oui, parce que ces pièces-là sont des espèces de petits... de scènes dramatiques un peu, enfin vous voyez, il faut créer une image, il faut créer un paysage, donc on réfléchit à ça, on voit comment faire ces points d'orgue, avoir des choses très très simples et les laisser sonner pour donner l'idée de quelque chose de comme ça, de d'immémorial, ce que j'appelle hiératique ici. Et ils le font très bien, hein, ils le font très très bien. Ils savent faire sonner ça. Enfin, ça a tout de suite une chose.
Est-ce que vous faites attention à leur niveau selon qu'ils ont 1, 2 ou 3 ans de piano, par exemple, ou vous essayez de vous mettre à un endroit beaucoup plus intermédiaire, quoi qu'il en soit?
En fait, le système des Musica Ficta, donc il y a 5 volumes. Le 5e volume, c'est des pièces plus longues et qui sont vraiment à un niveau de difficulté de concert. Mm-hmm. Pour autant, je ne considère pas que ce sont des méthodes. Ce ne sont absolument pas des méthodes. C'est progressif, mais on peut trouver dans le volume 2 des pièces légèrement plus faciles que certaines du volume 1. Donc, c'est aussi des entités qui jouent aussi sur des contrastes entre les pièces, presque des narrations. D'ailleurs, c'est arrivé qu'ils prennent tout un recueil et qu'ils le mettent presque en scène, enfin, vous voyez.
D'accord.
Avec des interventions de...
Oui, qu'ils en fassent une dramaturgie en soi.
Voilà. Ouais. À chaque fois, chaque volume est une proposition. Il faut les inciter comme ça eux-mêmes à... Moi aussi, sur certaines pièces, je leur dis, mais vous voyez, ça, on pourrait le réinstrumenter autrement. Ou alors, vous pouvez écrire quelque chose qui partirait de ce principe-là. Enfin, c'est un corpus de découverte, de rêverie, de fantaisie, et pourquoi pas un petit grain de folie aussi, vous voyez, à partir de ça.
Oui, parce que ça désobéit quand même gentiment à l'idéologie qui voudrait qu'il faut complètement maîtriser l'instrument avant que de pouvoir s'amuser.
Oui, ça je ne crois pas à ça du tout. Moi, je dis souvent, ici, dans cette pièce... À des gens, je dis « Ah, vous pouvez jouer du piano ?» Ils me disent « Mais je ne sais pas en jouer. » Mais je dis « C'est pas une raison pour ne pas en jouer. » Et donc, parfois, ils jouent et ils improvisent. Et parfois, c'est très intéressant, vous voyez. C'est quelqu'un qui va écouter, que ce soit un enfant ou un adulte, qui va écouter ce qui se passe. Alors, certains n'auront pas cette patience ou n'auront pas cette... Mais tout de suite, vous entendez quelqu'un qui écoute, même si c'est quelqu'un qui n'a jamais joué du piano.
Ouais, ouais.
Et donc cette notion d'écoute, elle se pose avant même que vous ayez un instrument dans les mains, vous voyez ? Alors ça, c'est une pièce de Philidée et il m'avait dit que c'était la première fois, vous savez, dans sa première manière, il n'écrivait pas du tout de notes, c'était que des bruits.
Oui.
Et là, c'est la première pièce où il a écrit des notes.
Ah oui, donc fallait-il une sollicitation de Musica Ficta
pour... Alors oui, est-ce que je suis responsable de ce passage esthétique chez lui, je ne sais pas. Et j'ai appris tout récemment d'ailleurs qu'il avait fait une version pour trio de cette pièce.
Parce que le titre général, Musica Ficta, c'est une manière donc de mettre la musique à un endroit pas trop réel ou...
Oui, enfin bon, il y a une allusion aussi à c'était une notion qu'on trouvait dans la musique médiévale, mais effectivement, dans l'idée de Musica Ficta, c'est qu'on se fait soi-même son histoire, on se fait soi-même sa narration, son paysage, son écoute. Vous voyez, il y a une notion comme ça soi-même, on crée sa propre musique en interprétant celle qu'on joue.
Oui. Donc c'est ça, c'est
quelque chose de très personnel.
On apprend à écouter, donc on apprend à se raconter ce que la musique.
Oui. Moi, ça me paraît être le propre de l'interprétation, à vrai dire. Mais c'est pas forcément ce dialogue-là qu'on fait avec les élèves dans les classes, mais on le fait sans doute, hein. Mais.
Ouais.
Alors Nembutal, c'est une pièce assez ancienne. Je ne saurais pas vous dire quand d'ailleurs. Je crois qu'il y a, des fois il n'y a pas de date parce que je n'avais pas daté les... Vous voyez, je fais allusion à Jean Genet. C'est pas exactement un écrivain pour enfants tout de même. Écrivain français, Nembutal est le nom d'un somnifère qu'il prenait trop souvent pour dormir. Voilà.
Là,
connaître Jean Genet, mais c'est un hommage à Jean Genet et au sommeil, éventuellement, ouais. Au sommeil un peu profond.
Agora, Côte d'Azur.
Et alors, qu'est-ce que cette expérience d'écrire pour pianiste débutant vient déplacer dans votre enseignement au Conservatoire de Paris avec des très grands élèves ? Est-ce qu'il y a des endroits d'ajustement dans votre rapport à la musique qui ressurgissent dans l'enseignement de la composition ?
Oui. Ce serait difficile pour moi de dire. Pour moi, c'est un tout. C'est la manière dont j'approche moi-même la musique, dont je la conçois, fondée sur l'écoute, une écoute en elle-même, mais aussi une écoute des autres. Et l'enseignement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'écoute des autres. Le fait que les autres vont tester leurs idées en vous les racontant, par exemple. De même qu'on dit que des cordes peuvent sonner en sympathie, on peut dire aussi que le travail d'écoute et le travail de dialogue avec des interprètes ou des compositeurs, c'est de l'empathie. C'est-à-dire vous mettez, c'est pas que vous vous mettez à la place de l'autre, parce que c'est pas utile, mais vous mettez absolument tout à fait à côté.
Oui. C'est aussi la recherche d'une justesse existentielle, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Moi, mot de justesse, je l'emploie très souvent, pas au sens musical,
au sens strictement harmonique,
mais de l'endroit où on peut et où on sent qu'on doit être. Pas au sens de devoir, mais là où on est juste. C'est-à-dire là où personne d'autre ne pourra faire cette chose-là que nous à ce moment-là. Ce n'est pas du tout un présupposé prétentieux, pas du tout, mais c'est une sensation. C'est-à-dire ne pas attendre. Parfois, les jeunes compositeurs vont faire quelque chose qu'ils pensent qu'on attend d'eux, comme j'ai fait moi-même.
Ce qui est le meilleur moyen de se perdre. Dans les attentes imaginées des
oui,
autres.
Oui, ou de ne pas assez se perdre. Enfin, il faut être beaucoup plus libre que ça. Ouais. Il ne faut pas partir de l'idée. Je crois que c'est Sartre qui disait il ne faut pas partir de ce qu'on a fait de nous, mais de ce que l'on fait nous-mêmes, de ce qu'on a fait de nous. Vous voyez et ça, je pense que c'est très important aussi dans ces rapports-là, parce qu'avec les enfants. Les enfants s'enflamment comme les toupes, je dirais. Enfin, une proposition, et tout de suite, ils ont plein d'idées qui leur viennent et qui sont très importantes sur la manière dont ils joueront après Schubert ou Chopin ou Courtag ou Stockhausen, peu importe. Mais cette chose de responsabilité, de liberté, de fantaisie et d'initiative, vous voyez, c'est-à-dire de pas être celui qui exécute, mais d'être celui qui co-réalise. C'est bien différent.
Merci Gérard Pesson.
Merci à vous.
Voilà, s'il vous plaît, vous êtes trois petits-enfants, vous êtes trois nouveaux élèves, 6-7 ans, c'est ça? Vous n'avez jamais vu ce que c'est que cet instrument. Donc, en quoi il est composé? Quels sont les matériaux?
Du bois.
C'est du bois, c'est bien. Alors, c'est exact. Parce que si vous avez, dans vos cours, si vous avez des claviers... Les enfants savent très bien que ce n'est pas du bois, c'est du plastique. Et donc, pourquoi c'est du bois, d'ailleurs ? Vous faites sonner, toutes les trois, s'il vous plaît, vous tournez autour du piano, et vous faites sonner avec les mains, j'utilise pour l'instant pas d'accessoires, ce qui est en bois. Toutes ensemble. Lucie aussi. Alors... Ça, c'est comme dans les cours. C'est grâce aux élèves qu'une idée vient et que vous passez à autre chose. Alors, merci, Tonia, parce qu'il y a deux choses qui sont fragiles. Principalement, la barre d'étouffoir. Il ne faut surtout pas s'appuyer dessus, ni les toucher, parce que c'est très fragile. Et donc, si là, ils sont bien positionnés, tous les étouffoirs, donc l'ensemble, c'est la barre d'étouffoir, et s'ils sont, donc je ne vais pas le faire parce qu'ils sont bien, bien entretenus, mais s'ils sont décalés légèrement, eh bien ce n'est pas en le tripotant que vous allez le remettre. Il faut que l'accordeur vienne. Voilà. Deuxième chose qui est fragile.
La table d'harmonie.
La table d'harmonie, voilà. Alors donc, qu'est-ce que c'est la table d'harmonie, Lucie? C'est comme le do d'une guitare ou d'un violoncelle. C'est justement ce qui permet de résonner, c'est-à-dire c'est du bois donc très très fin en fait qui couvre l'ensemble du piano. Si vous frappez avec du métal, bon, là-dessus, sur les montants, il n'y a aucun souci. Mais sur la table d'harmonie, alors vous pouvez frapper avec une maillotche, par exemple. Voilà. Ou dans les jouets, d'ailleurs. Voilà. Ou avec des maillotches que je n'ai pas là. Plus importantes, mais pas avec quelque chose de dur. Donc, vous allez faire un cluster, vous savez ce que c'est. Donc, dans le grave, fort, fort, fort. Voilà. Et Marie, vous étouffez le son, comme si on relevait la pédale. Mais ce n'est pas la pédale.
Moi, donc, je fais sans pédale.
Vous jouez, oui, sans pédale, vous jouez, faites un cluster dans le grave. Non, pardon, pour qu'elle puisse étouffer. Excusez-moi. Tonia, oui. Pour qu'elle puisse étouffer, il faut le tenir. Si vous l'enlevez tout de suite, voilà. Maintenant, encore un. En faisant un crescendo, il faut garder la pédale. Avec les deux mains. Donc, vous frappez. Okay. Alors là, les enfants adorent. Hein. Et en même temps, là, il est bien réglé. Mais quand il est très souvent mal réglé, le wang, c'est parce que les étouffoirs ne retombent pas simultanément bien sur les cordes. Donc ça fait cet effet. Ça a sonné plus chez Lucie.
C'était plus de distance.
Plus de distance, exactement. C'est d'ailleurs la même chose sur le clavier, et c'est ce que explique Neuhaus dans l'art du piano. Je faisais ça aux élèves. Si je dis « Oh, elle est gentille, cette petite fille », je fais une caresse de tout près. Et puis « Mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Donc je prends la distance. Et c'est la même chose sur le clavier, parce que les enfants débutants, souvent, ils appuient pour faire plus fort. Et évidemment, ça n'a aucun effet, puisque le son est déjà au piano. Une fois que le son est émis, on n'a plus d'action. Donc, vous recommencez à faire sonner, même en dessous, tout ce qui est bois, uniquement le bois. Moment, vous continuez. Donc là, j'ai mis la pédale, ok ? Ce qui résonne. Là, je l'enlève. Et quand vous demandez aux enfants qu'est-ce que tu préfères, là, c'est 100%. Qu'est-ce qui est mieux ?
Pédale.
Lucie. Oui. Avec la pédale. Ok. D'accord. Donc, tout ça, toutes ces démonstrations, en fait, c'est pour faire. Ressentir les vibrations et faire que le piano devienne un ami. C'est-à-dire que les autres instruments, souvent, dans les écoles, on les prête, les violons, les clarinettes, pendant un an au moins. Donc le piano, si c'est un piano acoustique, il a coûté très cher, ou alors il vient de l'arrière-grand-mère et il y a un pot de fleurs dessus. C'est un instrument impressionnant. On ne peut pas le tenir dans ses bras comme un violoncelle. Donc c'est pour le ressentir et s'en faire un ami. Donc peut-être vous faites comme moi, là, vous... parce que notre instrument est absolument génial pour ça, parce qu'on peut faire le son le plus ténu, un pids dans l'aigu, sans pédale, jusqu'au plus fort. Alors attention, là, on peut aussi rabattre le couvercle et ça n'abîme pas le piano. La seule chose qui peut abîmer le piano, et même si on prépare le piano, qu'on met des étiquettes, il faut faire très délicatement, c'est la barre d'étouffoir et la table d'harmonie. Mais si je frappe le couvercle, ça n'abîme pas. Mais là, je fais doucement. Je peux faire plus fort. Attention, chiez, éloignez-vous. Et là, donc, ça n'abîme rien. Alors, attention, parce que là, je vais faire un gros cluster dans le grave. Et vous, simplement, vous vous collez à l'instrument, le corps aussi, pas seulement les mains. Pour le relevé de pédale. Vous avez senti ? Voilà. Le piano, on peut dire que c'est un instrument à cordes, puisqu'il a des cordes, beaucoup de cordes, mais c'est un instrument à percussion, puisque c'est des marteaux qui frappent les cordes. Et on passe sa vie à essayer de le faire chanter. Alors, on enlève donc la lignée des clavecins, épinettes, etc., parce que ça, c'est cordes pincées. On enlève les orgues aussi, enfin, toute la lignée des orgues, puisque c'est du vent qui passe dans des tuyaux. Alors, le clavicorde, juste pour revenir dessus, je ne peux pas le faire, mais il a la particularité qui est passionnante, le mot est allemand, du Bebung. Et Bebung, ça veut dire mouvement, oscillation. C'est-à-dire sur une touche, alors je peux le faire au piano, il n'y a aucun effet. Hein, c'est un mouvement comme le vibrato des instrumentistes à cordes et qui fait osciller le son presque jusqu'au quart de ton. Ce qui fait qu'on peut se poser la question si à l'époque de Bach, quand on... comme un chanteur, sûrement. Hein, et que, évidemment, sur le piano moderne, on ne peut pas faire. Donc, si on part de compositeurs récents qui ont, comme George Crumb, qui a beaucoup utilisé le jeu dans le piano, il fait la différence entre la pulpe et l'ongle. Je reviens là pour Marie. Voilà, là vous êtes sur l'ongle. Alors maintenant, sinon, donc je prends exceptionnellement un objet métallique pour frapper sur le métal. Je ne vais pas frapper sur la barre d'étouffoir ou sur les cordes.
D'accord, à côté, sûr.
Ok, donc on peut faire beaucoup de choses. Alors, vous faites tous des PIDs. Ok, maintenant des glissandi. Voilà, ok, merci. Avec la pulpe. Cette barre-là, vous voyez où elle va. Au-dessus, il y a les cordes. Et en dessous, vous l'avez aussi de votre côté, vous êtes dans le grave. Elle est même sur les cordes graves. Montrez, montrez, Marina. Marina, montre-lui. Voilà. La fonction de ce bois-là, c'est de conduire le son qui permet de résonner, parce que là, j'ai mis la pédale. Mais même... Là, ça dure, parce que l'acoustique est bonne, ça dure un petit peu, même sans pédale. Hein, je ne mets pas de pédale. Là, non. Donc, ça conduit le son des cordes à la table d'harmonie, ce qui permet de résonner. Et j'ai eu l'expérience à l'île de la Réunion, sur une plage, un petit garçon qui avait une boîte de conserve et un bout de ficelle. Et pour faire sonner son instrument qu'il avait fabriqué, il a mis, parce que son grand-père lui avait dit, il a mis un petit bout de bois entre la ficelle et la boîte de conserve pour que ça résonne. Le bois conduit le son. C'est parce que, comme je vous ai vu jouer voilà, d'un côté et de l'autre, vous devez savoir, et forcément, que c'est le chevalet. Et bien évidemment, sur le piano droit, vous l'ouvrez, vous regardez, il y a partout ce chevalet qui court derrière les cordes et qui touche la table d'harmonie. Oui, ça c'est l'octave. Ça j'entends pas trop. Donc si je fais ici... Vous voyez ? Là c'est plus du tout. Hein, parce qu'il y a plus de distance, il y a plus de résidus. il y a plus de résidus de cordes. Voilà. Donc, pour les enfants, vous redites toujours, surtout pas toucher les étouffoirs, ni la table d'harmonie avec un accessoire qui est trop dur. Mais sinon, ce n'est pas fragile. Faites-nous entendre sur les cordes graves, un pitch sur les cordes et derrière le chevalet, devant et derrière le chevalet, pour qu'on entende la différence avec l'ongle. Et de l'autre côté. Oui. Génial. Voilà, sur aigu. Alors, Lucie, parce que là, du coup, elle est... Alors, le plus courant qu'on peut faire aussi sur un piano droit, c'est-à-dire en glissant comme ça, là, comme un tricot, l'un derrière l'autre, c'est du papier. Sur les pianofortés, les compositeurs et les facteurs s'amusaient bien. Il y a des pianofortés avec 5 pédales qui donnent des effets comme, justement, vous avez fait tout à l'heure, comme une petite maillotche qui vient taper en dessous. Et donc, si vous réservez... Vous avez ça. Et donc là, j'ai mis un papier, ça n'a rien à voir. Mais ça ressemble aussi à des effets qui étaient déjà imaginés sur... Et donc, le truc qui est assez joli... C'est la coquille Saint-Jacques nettoyée. D'ailleurs, elles sont très bonnes en ce moment. Je me dis. Ça, c'est la joie hein. Pour les enfants. Le cours, vous les laissez un quart d'heure. Donc, donnez le fil pour continuer. Alors... Là, je faisais ça souvent avec les enfants. Et ça, c'est très important. Il y en a un qui joue plutôt dans le grave parce que ça sonne mieux. Voilà, vas-y, chier. Et l'autre, qui est là, Marina, doit trouver la corde correspondante. Alors, allez-y, Marina. Voilà.
Il faut trouver.
Oui, attendez, mettez-vous à la place de Marina, bien en face. Voilà, n'importe laquelle. Comment vous avez fait pour la trouver ? Les enfants, souvent, ils regardent là, ils visent.
Ouais, elle est peut-être là.
Alors, moi, je dis non. Tu fais comme a fait Marina. Je fais toucher tout doucement, jusqu'à sentir celle qui vibre. Et là, vous mettez le doigt dessus. Index ou médium, oui. Alors là, il y a combien de cordes, Lucie?
Non.
Combien il y a de cordes pour cette
avancée?
Avancez, Lucie, jusqu'à.
Avancez
vers nous. C'était très bien de l'avoir pris le relais parce qu'elle n'avait pas la main assez grande, le bras, mais vous avez passé. Alors, on va aider Marie. Vous prenez une plus aiguë pour qu'elle ait moins de trajet à faire. Ok, on s'arrête là. Très bien. C'est pas celle-là, hein. Mais c'est très bien. Non, restez où vous étiez. parce que c'est là, c'est deux octaves. Mais c'est là-bas. Ah ben c'est pas mal, mais c'est la quinte. Alors ajustez-la qu'elle soit bien juste, un tout petit peu, un millimètre. Vous voyez, vous entendez? D'accord. Alors, Serge va prendre le relais. Ah non, il fallait la garder. Attendez, reprenez, attendez, laissez Marie. Vous revenez sur l'octave. Millimètre. Voilà. Maintenant, Serge prend le relais parce que... une octave, d'accord. Mais si on s'arrête, je prends le même mi n'importe où. Alors évidemment, à l'IRCAM et autres, on a des ordinateurs, des appareils très perfectionnés qui pourront nous dire combien d'harmoniques et de partiels et lesquels on entend. Mais nous, on s'arrête. On n'a pas de bonne raison d'ailleurs pour s'arrêter à celle qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on entend là? Donc ça peut être un fouillis d'harmoniques, comme dit Xenakis. C'est du suraigu, je peux pas dire si j'entends une espèce de fa dièse, mais voilà, c'est presque celui-là que j'entends. Peut-être vous entendez autre chose. Voyez. Donc, elles existent, celles-là. On ne va pas les supprimer. Hein. On ne va pas dire, celles-là ne m'intéressent pas, si vous faites des jeux ou vous les utilisez. Bon, j'ai noté, par exemple, chez Crumb, en effet, il demande, et je vais vous montrer lesquelles, d'ailleurs, il demande principalement, quand il y a le jeu à l'intérieur, comme très souvent chez Crumb, quand c'est des harmoniques, il demande l'octave ou la quinte, ou la tierce. Pour Crumb, quand il demande la tierce, c'est toujours après l'étouffoir, vous avez une note grave, et comment... Qu'est-ce qu'il demande? Voilà, ajustez-le, accordez-le bien, parce qu'il faut... Voilà. Elle était sur un do, en étouffant l'harmonique, près de l'étouffoir, sans toucher l'étouffoir, sans appuyer dessus. D'accord ? C'est comme ça qu'on voit s'il est juste ou pas. Et selon la dimension du piano, si vous avez un grand piano de concert, ça sera un petit peu plus loin. Si vous avez un piano plus petit, ça sera encore plus près de l'étouffoir. Ça, c'est la dixième, disons, qu'on entend. Maintenant, dans les cordes médium, Crumb demande souvent l'octave. C'est le milieu de la corde. Alors, par exemple, Stockhausen, c'est le premier qui a noté comment enlever, alors je vais le faire, l'attaque. Et reprendre, enlever la fondamentale. Alors là, c'est formidable ici parce qu'on entend très bien. Alors on peut s'amuser, évidemment un peu difficile pour les élèves, mais on peut quand même s'amuser à lever le bras très haut et rattraper juste les harmoniques. Là, j'étais un peu haut. Là, je suis tout prêt. Alors maintenant, je vais vous demander donc un exercice. Vous allez glisser irrégulièrement, sans vous occuper des voisins, juste vous écouter le résultat. Et vous mettez la pédale, parce que ça sera plus joli, la pédale droite, la pédale qu'on appelle forte. Et vous manipulez sans vous occuper des autres, vous jouez voilà, vos doigts comme vous voulez.
Je peux changer.
Oui, c'est là. Voilà. Alors, évidemment, ça va ressembler à du piano préparé. Pas trop fort.
Vous jouez avec ces deux notes.
Avec ces deux notes, vous ne touchez pas d'autres. Exactement. J'avais mal dit. Oui. Let's go.
Agora Côte d'Azur.
Non, c'est parce que là, on reste sur les harmoniques étouffées.
D'accord.
D'accord. Okay. Parce que ça, c'est d'accord, mais c'est, vous êtes passé sur autre chose. Voilà. Et vous pouvez, en gardant les mêmes touches, vous pouvez faire des rythmes et des nuances.
D'accord.
C'est autorisé. Chacun est indépendant, mais écoute, vous entendez l'autre. C'est-à-dire, vous faites quelque chose qui fonctionne avec ce que vous entendez. D'accord ? Mettez votre main là, Tonia. Vous l'aurez tout de suite. Oui, mais enfin, c'est...
Ah, voilà. C'est là. Et l'autre ?
Oui, parce qu'elle était partie. Okay. Oui, avec on n'a pas la bonne là.
Non.
Oui. Il y a deux cordes, Tania.
Ah.
Voilà.
Ah, c'est okay.
On y va. Merci. Vous cherchez chacun un élément très bref, enfin court. Je dis souvent comme votre signature, même si votre signature elle est très, très étalée, et qui sera mis en répétition. Après, je vais, selon vos propositions, et élaborer une toute petite musique inventée avec beaucoup de guillemets. Pour juste montrer qu'avec des éléments très simples, on peut faire quelque chose qui soit quand même musical, qui soit déjà musical. Donc, qui peut être donc, un peu de ce qu'on a vu ce matin, qui peut être, alors je récapitule rapidement, du frappé sur le bois, du frappé sur les cordes, des glissando sur les cordes, des pids, des harmoniques, puis j'ai oublié, toujours avec les doigts. Alors, chacun étant indépendant, comme votre battement de cœur qui n'a pas la même pulsation que vos voisins, et moi je vous dirai après, je ferai les entrées et les sorties, je vous dirai après. Très bref et qui sera en répétition. C'est comme si vous faites qui sera, ça sera quelque chose de très primaire, hein, qu'on va élaborer. Thank you. serré dans le temps, je vais avancer un peu. Donc, je vais vous demander, parce que moi, j'ai besoin de savoir, parce que je vais vous faire démarrer et arrêter, de mémoriser ce que vous faites. Donc, l'un après l'autre, je vous appelle. Donc, alors, vous mettez la pédale, Serge. Tonia, toute seule. Ok, d'accord. Sachant qu'on va faire un déroulé extrêmement simple, c'est-à-dire, je vais vous dire les entrées, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on va commencer piano, crescendo, puis après, je ne sais pas encore. D'accord ? Est-ce que vous pourrez le dynamiser ? Ah, c'est extrêmement joli. Merci. Je le mémorise. Serge, qu'est-ce que vous avez fait ? Je n'ai pas du tout entendu. Attends, Serge. Oui, ça va être difficile de le faire plus fort quand même. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Chier. D'accord. Lise. Merci. Ok. C'est bon. Marina. Marina. C'était pas mal ? Ça te fait pas mal aux ongles ?
Non.
Non ? Ok. Marie. Alors, Marie, je crains que... Avec les...
Avec un petit ongle.
Hein ?
Avec un tout petit ongle.
Avec un petit ongle. Il faudra juste... Non, c'est bon, rien. Alors, pardon, Lucie. Bonjour. Vous voulez vous asseoir ? Si vous voulez. Voilà de quoi s'asseoir. Attends, c'est... approchez-le. Alors, voilà. Vous faites juste un petit arrêt entre chaque. Ok. Merci. Alors donc. Je vous... Alors, une fois que vous avez commencé, vous continuez. Donc, je vous fais signe ou je dis votre nom, prénom, pour démarrer. Ok, j'essaye de mémoriser. Et une fois que vous avez commencé, vous continuez. D'accord ? Le crescendo sera mené par Chillé, je crois. Et peut-être Etonia, peut-être entre les deux. En tout cas, pour commencer, piano, très piano. Et une fois que vous avez commencé, vous continuez. Tonia.